Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Fraîchement nommée, Agnès Pannier-Runacher a pris aujourd'hui la tête d'un ministère au nom rallongé. Ministère de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Autant de défis à relever pour la députée issue de l'aile gauche de la Macronie.
J'ai conscience d'être dorénavant membre d'un gouvernement où je peux apparaître isolée en tant que femme de gauche. Mesdames et messieurs, je serai une voix exigeante avec la volonté d'agir tous les jours, de ne pas considérer que la nouvelle donne politique serait un appel à l'inaction.
De son côté, le nouveau Premier ministre l'a réaffirmé hier, l'écologie sera l'une de ses priorités, au même titre que le déficit public.
J'ai dit en arrivant à Matignon, je ne veux pas aggraver la dette financière ni la dette écologique, et ce sont deux sujets fondamentaux pour moi.
La fibre écolo de Michel Barnier n'est pas nouvelle. Jeune député de Savoie en 1990, il publie 100 propositions pour la planète dans cet ouvrage « Chacun pour tous, le défi écologique ». En 1993, il devient ministre de l'Environnement du gouvernement Balladur avec un objectif, encourager la concertation entre différents acteurs de la société aux attentes parfois opposés.
Les uns qui veulent tout protéger et qui font quelquefois passer la nature avant tout le reste. Les autres qui veulent aménager, quelques-uns parmi eux travaillent sur de vieux schémas, celui d'une croissance qui devait aller le plus vite possible et qui abîmait forcément.
La loi Barnier, adoptée en 1995, fait naître les premiers grands principes du droit de l'environnement, comme celui du pollueur-payeur. Alors, 30 ans plus tard, Michel Barnier est-il toujours autant engagé sur les questions environnementales ? Le nouveau gouvernement, marqué à droite, est-il un atout ou un obstacle pour la transition écologique, comme l'assurent les Verts ? Comment compte-t-il concilier écologie et économie dans un contexte de contraintes budgétaires ?
Comment, eh bien, vous allez nous expliquer et nous donner votre sentiment. Léa Falco, cofondatrice du collectif Construire l'écologie, bonsoir. Votre essai « Faire écologie ensemble » est paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Selon vous, il faut attendre la déclaration de politique générale de Michel Barnier, bien sûr, pour savoir ce que sera son programme en matière d'écologie. Mais si ce programme est proche de celui de LR, eh bien, ce ne sera ni glorieux ni ambitieux. À côté de vous, Corinne Lepage, bonsoir madame, ancienne ministre de l'Environnement. De 1995 à 1997, c'était dans le gouvernement d'Alain Juppé. Selon vous, Michel Barnier a été un très bon ministre de l'Environnement. Beaucoup de grandes lois sur le sujet viennent de la droite, à commencer par la charte de l'environnement, mais c'était un autre temps, à une autre époque, et il n'est pas sûr que ce soit toujours une priorité. Et à côté de vous, Arnaud Gossement, bonsoir, avocat. Spécialiste en droit de l'environnement. Vous êtes par ailleurs professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Selon vous, le périmètre du ministère occupé par Agnès Pannier-Runacher laisse entendre que la priorité pourrait être donnée à la question énergétique. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les questions, toutes les autres questions liées à l'environnement. Et on démarre avec le mot du jour.
Oui, dette écologique. Le Premier ministre a donc annoncé dès sa nomination son intention de s'attaquer à la dette financière de la France, abyssale comme on le sait, mais aussi à la dette écologique. Ce sont ces mots. La dette écologique peut se définir comme une utilisation abusive des ressources de la planète au regard de sa capacité à les renouveler. Elle est symbolisée par le jour du dépassement calculé chaque année par l'association environnementale WWF. Léa Falco, plutôt bon signe finalement de mettre sur le même plan et la dette financière et la dette écologique.
Oui, plutôt bon signe. Disons que ça veut dire que c'est deux problèmes majeurs dont il faut s'occuper. Après, il y a toujours une question de hiérarchisation. Et en fait, au-delà du personnage Barnier, de la figure Barnier et de ses convictions propres, il y a aussi quand même une architecture de gouvernement qui va être plus ou moins favorable aux questions environnementales. On a un ministère dont le périmètre s'est réduit par rapport à ce qu'il était avant, qui est revenu en fait à ce qu'il était presque à l'époque de Jean-Louis Borloo. Donc, il y a une quinzaine d'années, là, la maire a été écartée à nouveau du ministère, les transports sont indépendants, le logement est indépendant, l'agriculture n'est toujours pas dans le périmètre. Il y a une question quand même qui se pose.
Alors, on va revenir à ce périmètre, mais d'abord, est-ce qu'il est crédible, Michel Barnier ? Selon vous, oui, Corinne Lepage. Il a quand même, à son actif…
Il a un passé.
Il a un passé. Qui n'est pas un passif.
Qui n'est pas un passif. Encore faut-il qu'il y ait un avenir. Et moi, j'ai été parmi ceux qui ne lui ont pas fait le procès d'intention à l'origine. On n'a pas été très nombreux sur ce créneau. Bon. Donc je continuerai à ne pas faire de procès d'intention, mais je suis quand même très perturbée par l'organisation qui est mise en place, parce qu'effectivement, ça s'appelle transition écologique, climat, énergie, risque, ce qui veut dire que tout ce qui est l'environnement, c'est-à-dire les limites planétaires, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire la biodiversité, la forêt, les sols, tout ça, on se demande où c'est. Mm. C'est dans le périmètre, sauf que, visiblement, c'est pas un sujet.
Mais Arnaud Gosmand, on entend les réserves de Corinne Lepage sur la dénomination du ministère, mais ce qui importe, c'est une volonté politique. On a un Premier ministre qui a été ministre de l'Environnement. Enfin, ce n'est pas arrivé tous les quatre matins, quand même, en France. Donc, on peut quand même imaginer que ça a pu être un gage de crédibilité pour
oui,
la suite.
Effectivement, je partage les réserves de Corinne Lepage, qui est très bien placée pour analyser la situation actuelle après avoir été ministre. Effectivement, Michel Barnier a à son actif une grande loi, une loi de 1995, qui a été unanimement saluée.
Le principe de précaution, ouais. Le principe du pollueur-payeur, notamment.
Il en reste des choses très importantes pour l'écologie, mais c'est vrai aussi que les premiers signaux qui ont été envoyés depuis sa nomination à Matignon ne sont pas bons.
Lesquels ?
Par exemple, son cabinet. À son cabinet, effectivement, on a dissocié complètement les portefeuilles de l'agriculture, de la mer et du logement, pas uniquement dans les ministères, mais aussi à Matignon, c'est-à-dire au cœur de la machine administrative, là d'où part l'impulsion électrique vers les autres ministères. Or, on sait que l'écologie, vous avez deux manières de la traiter dans un gouvernement. Soit vous dites c'est un ministère parmi d'autres, et généralement de second plan, soit vous dites c'est au cœur de toutes les décisions publiques. Et si vous voulez faire ça, eh bien, il faut qu'à Matignon, l'écologie soit représentée. Alors, on avait essayé avec le secrétaire général à la planification
écologique. Mais il est en charge de la transition écologique énergétique. Enfin, c'est dans sa dénomination.
Dans le titre et oui, d'Elisabeth Borne. Mais le problème, c'est qu'ensuite, est-ce qu'il s'en donne les moyens ? On avait créé une administration pour ça qui a été placardisée, disons-le franchement. Donc les signaux sont absolument pas les bons. Et le ministère lui-même, j'ajoute une chose par rapport à ce que disait très justement Léa Falco, c'est qu'on a supprimé les secrétariats d'État. C'est-à-dire que concrètement, les gens qui s'occupent de biodiversité, de nature ou même d'économie circulaire, on leur dit, écoutez, ça sera un conseiller qui vous recevra. Alors qu'avant, on a eu des secrétaires d'État. Alors un secrétaire d'État, ça change pas tout. Mais c'est une façon aussi d'envoyer des messages politiques en disant aux partenaires du ministère, vous serez reçus par la grande porte ou pas. Là, il reste l'énergie avec quelqu'un qui... objectivement, n'a pas de compétence en énergie, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas bonne à ce poste-là. Mais voyez, le message qui est envoyé aujourd'hui, ce dont on dispose, ne va pas dans le bon sens.
Ouais. Léa Falco, vous êtes d'accord avec ça ? Parce qu'en même temps, bon, franchement, les Français, ils ne vont pas regarder s'il y a un secrétaire d'État ou pas. Hein. Enfin, je ne suis pas certain qu'ils regardent dans le détail s'il y a déjà 39 ministres au total. Oui, vous avez raison. Mais justement, Agnès Pannier-Runacher a dit clairement qu'elle veut sortir la France, je la cite, des énergies fossiles. Et elle ne débarque pas dans ce ministère sans avoir une expérience auparavant.
Oui, encore heureux, hein, parce que si elle l'annonce pas, c'est quand même aujourd'hui dans les plans étatiques.
Donc, ça, c'est des procès d'intention qu'on a pu lui faire, c'est pour ça.
Oui, non mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faille et qu'on espère qu'elle fera son possible dans un environnement contraint, il faut le rappeler, pour le faire. Maintenant, le problème, c'est que c'est exactement ce que vous disiez, Corinne Lepage. En fait, la forêt s'est passée intégralement au ministère de l'Agriculture, les sujets agricoles restent à l'agriculture, il y a eu la passation de pouvoir entre Marc Fesneau et notre nouvelle ministre de l'Agriculture, Madame Genevard. Le mot bio n'a pas été prononcé une seule fois. Donc en fait, il y a aussi des questions architecturales.
Mais c'est ce que vous avez toujours souhaité, vous, c'est un ministère de l'Agriculture qui soit couplé avec le ministère de l'Écologie.
Pas forcément. Pas forcément, parce que ça peut. Vous avez deux manières d'envisager. Soit effectivement ce super ministère, soit des ministères qui prennent de manière transversale les enjeux en main. Et là, il y a des vraies questions aussi d'organisation de l'administration. Reste que là, la disparition de la biodiversité, par exemple. Alors qu'il y a quelques mois seulement, il y avait une stratégie de biodiversité qui était créée quand même.
C'est vraiment de la biomasse.
Très mauvais signe, tout à fait. Enfin,
mais Corinne Lepage, c'était comme ça à votre époque, pardon.
Mais... Non, mais c'était très différent. D'abord, l'environnement, il y a 30 ans, ne représentait pas du tout ce qu'il représente aujourd'hui. Il y avait une grande force, c'est que le ministère de l'Environnement ne faisait que de l'environnement. J'avais quatre directions. L'eau, la direction d'administration générale, la nature et les risques, la DPPR. Voilà. Donc, on ne faisait que de l'environnement. L'avantage, c'est qu'en interministériel, c'est le Premier ministre qui tranchait quand je n'avais pas des rapports très simples avec l'équipement, avec l'industrie, avec l'agriculture, avec ce que vous voudrez. Bon, la grande faiblesse, c'était un tout petit ministère, 400 fonctionnaires en centrale.
Peu dotés.
Le même nombre quasiment d'inspecteurs des installations classées qu'aujourd'hui. Hein, donc... Ne rêvons pas.
Donc les choses ont changé. Le ministère est plus gros, il y a plus de fonctionnaires.
Aujourd'hui, il y a un ministère qui est beaucoup plus vaste, mais la part de l'environnement est devenue une portion extrêmement congrue. Vous n'avez plus de direction générale de l'eau, vous n'avez plus de direction générale de la nature, tout ça, ça n'existe plus. C'est fondu dans une direction des habitats. Alors là, je ne sais pas comment ils vont remachiner ça, puisqu'il n'y a pas le logement. Mais très franchement, c'est vrai que le climat, c'est très important. Mais il n'y a pas que le climat. Vous avez toutes les questions de biodiversité, vous avez la santé environnementale qui est en train de passer totalement à la trappe. Et c'est pourtant un sujet majeur.
Corinne Lepage, on va voir si le choix d'un think tank de droite, écologique de droite, qui est plutôt proche de Michel Barnier, peut faire changer les choses, puisqu'il se rêve en laboratoire donc, du Premier ministre.
Exactement.
Ou être, du gouvernement.
Oui, être écologique et de droite n'est pas antinomique. C'est ce que déclare Ferréol Delmas, 26 ans, le fondateur donc, de ce think tank qui s'appelle Écologie responsable. Alors, en 2018, il est conscient que la droite est à la traîne sur les questions écologiques et il décide donc de s'en emparer. 4 ans plus tard, celui qui a été donc président des Jeunes Républicains de la Sorbonne se fait remarquer et il devient le référent écologique de la campagne de Michel Barnier, c'est en 2022, pour les primaires républicaines. Aujourd'hui, son think tank compte essentiellement des étudiants et des jeunes entrepreneurs, tous convaincus qu'une écologie positive et non pas punitive est possible, loin de la décroissance. Alors, il parle d'écologie pragmatique qui favorise la croissance tout en respectant l'environnement, sans le détruire en tout cas. Par exemple, face à la raréfaction de l'eau potable, il propose la désalinisation de l'eau de mer par des start-up. Mais le groupe organise aussi régulièrement des ateliers et des conférences à destination d'élus et de chefs d'entreprise pour faire dialoguer économie et écologie. Mais ils défendent aussi une forme de patriotisme écologique. Leur objectif, c'est de réussir à créer un sentiment d'appartenance au territoire qui pousserait les citoyens à vouloir en prendre soin et donc à défendre ces écosystèmes. Cet été, ils ont d'ailleurs effectué un tour de France des régions à la rencontre d'élus locaux, de jeunes et d'entreprises pour mettre en lumière les bonnes initiatives environnementales locales. Arnaud Gossement, est-ce qu'une écologie de droite, c'est possible ?
Dans l'histoire de la Ve République, les gouvernements de droite ont pu produire des lois, notamment celle de Michel Barnier, qui sont des lois qui ont été intéressantes. Maintenant, il faut faire attention parce que numériquement, il y a plus de gouvernements de droite dans l'histoire que de gouvernements de gauche. Et c'est vrai que les gouvernements de gauche ne sont pas non plus tous illustrés. Rappelez-vous Jean-Marc Ayrault qui vire sur Twitter Delphine Bateau, pourtant très compétente, ou son successeur Manuel Valls qui se bat pour que Notre-Dame-des-Landes continue cet aéroport à exister. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si l'écologie est de droite et de gauche. Le problème, c'est qu'on est dans l'urgence.
Il y a cette volonté aujourd'hui de faire s'entendre économie et écologie. Est-ce que ça, c'est possible?
Il faut dépasser ce débat, sincèrement. Aujourd'hui, et je suis sûr que Corinne Lepage sera d'accord avec moi et complétera, aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on est écolo ou pas? Est-ce qu'on veut avancer? Parce que toutes les solutions scientifiques sont sur la table, les solutions économiques ou pas. Ce qui manque, c'est des choix publics qui soient construits avec la plus grande partie du pays pour avancer.
Mais pardon, des choix publics, il y en a eu, Léa Falco. Quand on regarde les résultats, la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est presque 6% de moins en 2023, c'est un score jamais atteint. C'est quand même pas mal en termes de résultats.
Oui, alors après, quand on parle de bas, forcément, on va plus vite. Et c'est une bonne chose, il faut le souligner. Hein. On ne va pas complètement dénaturer ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un Haut Conseil pour le climat qui a été créé par Emmanuel Macron, qui est une instance indépendante, qui juge que les efforts sont toujours insuffisants. Ça ne veut pas dire qu'il y a une inaction climatique ou environnementale complète. Ça veut dire qu'il faut pouvoir mettre les grands moyens là-dessus, que les grands moyens, c'est des moyens financiers, c'est des moyens organisationnels, c'est des moyens effectifs publics qui sont mis sur la table et qui, par ailleurs, vont aussi engendrer des vraies questions sur le domaine du privé, sur le domaine de l'économie, parce que vous en parliez. Il n'y a pas, je pense, une antinomie complète entre la gauche politique et les sujets économie-environnement. Enfin, sinon, on entre rapidement dans une impasse. Il faut simplement se rendre compte qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de planification, parce qu'on a besoin d'avoir des objectifs chiffrés, d'avoir les moyens de les atteindre, et que ça, ça passe par de la volonté politique et par plein d'autres facteurs qu'il va falloir trouver d'une manière ou d'une autre dans le gouvernement Barnier ou d'autres.
Corinne Lepage, votre voisin disait, d'une certaine façon, l'urgence écologique doit transcender ce clivage entre la gauche et la droite. Mais la notion simple de décroissance, qui n'est pas un gros mot, mais est-ce que la notion de décroissance ou de ralentissement est quelque chose d'acceptable ?
Il y a des domaines dans lesquels on va évidemment ralentir, le pétrole, on va ralentir. Je voudrais dire 3 choses. La première, le think tank, machin, c'est vieux comme le monde. Je veux dire que ça doit être la 14e. Moi, j'avais fait ça quand j'étais au gouvernement. Tous les ministres, pratiquement, ont fait ça. Franchement, ça n'a rien de très nouveau. Mmh. Ça, c'est le premier point.
Bon. Du coup, c'est assez symptomatique.
Pas tout à fait. Vous avez des initiatives autour de écologie positive et territoire qui étaient aux élections. Ils ont essayé de faire quelque chose dans ce domaine-là. Deuxième point... Les entreprises font beaucoup de choses. Je veux dire par là, cette manière qu'on a de toujours dire il faut pousser, obliger, etc. Regardez les initiatives qui sont prises dans le monde économique par les grandes et les moins grandes entreprises, qui sont du reste poussées au rein aujourd'hui par la CSRD, par le devoir de vigilance, par toute une série de nouvelles réglementations qui se mettent en place, il y a des vraies transformations. Et le troisième point, et j'aurais, j'aurais terminé, on a besoin effectivement d'argent, c'est vrai, mais on a besoin aussi et surtout de lignes qui soient tenues de manière constante. Aujourd'hui, dans le domaine des énergies renouvelables, Carnot connaît aussi bien que moi, les entreprises, elles sont à l'arrêt. Il y a plein de projets, rien ne sort, parce que précisément, on est dans une incertitude politique complète. Ça, c'est pas possible. C'est franchement pas possible.
Votre voisine, avec tout le respect qu'elle vous doit, avait l'air un peu dubitative au moment où vous évoquiez la bonne volonté des entreprises. Léa Falco ?
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, là, je prends un autre exemple. Le Parlement européen a donc voté en 2035 l'arrêt de la mise sur le marché de véhicules thermiques. Bon, nos entreprises françaises, au début, elles disent on a plutôt lobbyé contre en coulisses, donc on est un petit peu inquiète. Finalement, on accepte. Et là, aujourd'hui, on a un retour progressif en arrière de la part d'entreprises qui est dangereux, parce qu'on a besoin, justement, et là, je vous rejoins, que ces entreprises-là s'engagent.
Une visibilité.
En plus des nouveaux marchés, et en plus, non seulement une visibilité, mais de fait, n'essaie pas de retirer cette visibilité en luttant contre de la réglementation. 2035, c'est un horizon qui est suffisamment lointain pour le voir venir et anticiper, et suffisamment proche pour avoir un véritable impact. Donc, c'est des réglementations de ce type-là dont on a besoin.
Oui, il faut de l'argent. Attendez, juste
un instant. Oui.
Ah bah justement, alors, il y a beaucoup de défis, il faudra trouver de l'argent, vous le dites, Corinne Lepage, sans creuser les déficits, c'est quand même une contrainte. Écoutez les préconisations de Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes.
On peut faire des économies partout. Dans l'écologie aussi, il y a des dépenses qui ne sont pas bonnes. Je dis simplement qu'il faut en ajouter pour l'avenir. Il faut investir massivement. Mais attention, pour investir dans la transition écologique, il faudra trouver de l'argent. Et ça ne peut pas être plus de dettes, ce qui veut dire qu'on doit faire des économies ailleurs. C'est une question de priorité.
Mais Arnaud Gosselin, est-ce qu'il faut vraiment de l'argent pour lutter contre le réchauffement climatique? Est-ce que les deux sont vraiment corrélés? Est-ce que ce n'est pas d'abord une volonté politique, des réglementations, des incitations?
Oui, il en faut. Et si vous n'en dépensez pas, ça va vous coûter encore plus cher. Et c'est dommage de devoir le rappeler.
Donnez un exemple, expliquez concrètement.
Oui, le président de la Cour des comptes, évidemment, dans son rôle comptable. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis des années, en fait, on augmente les missions de ce ministère. On veut une police de l'environnement, on veut une justice environnementale, on veut produire l'énergie renouvelable, etc., etc., etc. Tout le monde veut beaucoup. Et le problème derrière, c'est qu'on dit, eh ben non, il faut baisser les budgets, il ne faut pas recruter plus de fonctionnaires. Comme Corinne Lepage le disait, des inspecteurs, par exemple, qui sont chargés de visiter et de contrôler les installations industrielles, leur nombre est quasiment identique. Et aujourd'hui, une installation industrielle, grosso modo, elle a un contrôle tous les 10 ans en résumons un petit peu. Donc oui, il faut de l'argent et cet argent-là, c'est un argent qui est bien dépensé parce que c'est un argent que vous n'allez pas dépenser parce qu'il y aura des gens qui seront malades, parce qu'il y a des gens qui seront morts, parce qu'il y a des inondations. Le coût d'une inondation, comme on a vu ce matin à Cannes, ou d'un incendie, ce que vous voyez tous les étés, ça coûte 1000 fois plus cher que ce que la Cour des comptes note dans son rapport. Donc oui, il faut de l'argent. Un point aussi, si vous me le permettez.
Oui.
Je suis très frappé par le fait qu'on a un débat, encore une fois, vous l'avez parlé tout à l'heure, émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, ça suppose beaucoup de choses, et pas uniquement une certaine production d'électricité. Or, le débat aujourd'hui, c'est le débat sur la production d'électricité, qui est souvent résumé à pour ou contre le nucléaire. Mais derrière, en fait, l'environnement, c'est un tout. Il va falloir agir sur les puits de carbone, sur les forêts, sur les sols qui sont artificialisés, sur la santé, sur les animaux. Et tous ces sujets-là, aujourd'hui, y compris, pardon, parfois dans les médias, eh bien, ils sont un peu laissés de côté. Quand on parle d'écologie, merci à vous de le faire, eh bien, souvent, on résume le propos à comment on va produire l'électricité. On ne se pose même pas la question de comment on va l'économiser, cette énergie, et comment on va faire des économies aussi d'argent, là.
Au soutien de ce que dit, de ce que dit Arnaud, un exemple d'aujourd'hui, l'ONF, il dit voilà, moi j'ai
l'Office national des forêts donc.
L'Office national des forêts, je n'ai plus suffisamment de monde après toutes les coupes budgétaires que j'ai subies pour pouvoir engager ce qu'il faudrait engager pour réduire, pour s'adapter aux dérèglements climatiques. En eau puits de carbone, c'est une richesse absolument formidable. Il faut savoir qu'on a perdu 50% de nos puits de carbone forestiers en 10 ans. C'est absolument colossal. Et ça, c'est de l'argent qui est parti.
Alors, l'écologie et la droite, puisque c'était quand même le point de départ de notre débat, c'était notamment le Grenelle de l'environnement voulu pour Nicolas Sarkozy. Voilà, on s'en souvient, c'était en 2007, il avait débouché sur des promesses fortes.
Syndicalistes de tous bords, leaders écologistes de toutes tendances, figures politiques, ils étaient plus de 500 invités dans la salle des fêtes de l'Élysée à attendre les conclusions de 4 mois de travail et de 2 jours de négociations marathon. Ces conclusions, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui a tenu à les donner. Il a voulu faire sienne une révolution écologique jusqu'ici portée par d'autres.
Tous les grands projets publics, toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leur coût pour le climat, leur coût en carbone. Toutes les décisions publiques seront arbitrées en intégrant leurs coûts pour la biodiversité. Très clairement, un projet dont le coût environnemental est trop lourd sera refusé.
Léa Falco, les contraintes, elles n'ont pas été intégrées. Les Français n'en voulaient pas non plus. Est-ce que le gouvernement Barnier, Michel Barnier lui-même qui a été ministre de l'Environnement, ne doit pas prendre en considération cela ? C'est-à-dire que les Français ne veulent pas de punitif totalement en matière d'écologie.
Je trouve que votre question est quand même un petit peu orientée. C'est-à-dire que d'une part, vous considérez forcément l'écologie comme punitive, ce que je pense elle n'est pas, et d'autre part, les Français n'en voudraient pas. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, et ça rejoint la question
c'est
du budget.
C'est ce que les Français disent dans certains sondages.
Hein. Oui, et puis ils disent le contraire dans d'autres, parce que vous savez bien que les sondages, hein, on peut un peu leur faire dire ce qu'on veut. Ce qu'il y a à regarder, c'est que les investissements en faveur de la transition écologique, en fait, à la fin, c'est quand même souvent des investissements pour autre chose. Quand vous mettez des sous sur la table pour installer une usine de pompe à chaleur, vous employez des gens. Quand vous mettez des sous sur la table pour favoriser de la mobilité douce, vous favorisez une meilleure santé pour les gens. Pareil quand vous investissez pour une agriculture plus respectueuse du vivant, des agriculteurs et de la nature. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est que quand on parle d'écologie, on ne parle pas d'une espèce de grenouille en Amazonie ou d'un ours blanc. On parle de nos vies concrètement, au quotidien, dans tous ces aspects. Et c'est pour ça qu'il faut investir aujourd'hui.
Moi, je ne suis pas d'accord sur l'histoire de l'écologie punitive. Je suis désolée. Je ne suis pas d'accord et pour une raison très simple. Quand vous parlez de sécurité publique, de grands risques, et qu'on vous dit, bah, vous allez avoir plus de contrôle, vous allez sortir votre carte d'identité, vous allez faire ceci, on se dit, bah, c'est très embêtant, hein, ça me casse les pieds.
Mais on se plie.
Mais je vais le faire parce qu'il y a un risque majeur. Là, c'est notre vie qui est en cause. Peut-être pas celle de ma génération, mais celle de celle qui vient, et en tout cas de celle d'après. Donc c'est extrêmement grave. Donc que l'on prenne un certain nombre de mesures pour essayer d'éviter d'aller à la catastrophe, mais c'est normal. C'est pas punitif, c'est pas plus punitif.
Non, mais on l'a fait sur la sobriété énergétique par des campagnes publicitaires incitatives, sans brusquer, par exemple.
Non, mais ça, c'est la première chose. La deuxième, vous parliez des voitures électriques tout à l'heure. Bon, et vous vous regrettiez, vous avez raison, que les constructeurs renaclent. Mais pourquoi est-ce qu'ils renaclent ? Parce que les gens n'achètent pas les voitures. Il y a l'offre, il n'y a pas la demande. Pourquoi il n'y a pas la demande ? Alors, quand le gouvernement a lancé les voitures à 100 euros de leasing, ça a tellement bien marché. Quand un mois, trois semaines, c'était
arrêté. Que ça a été fini.
C'était fini. C'était génial. Ça coûtait trop cher. C'était mal calibré. Mais ça n'aurait pas été 100 euros, mais peut-être 200 euros ou 250 euros. On aurait pu tenir le coup. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on veut faire des choses, on peut les faire.
Très bien.
Ça coûte, mais ça rapporte, et il faut une logique d'ensemble. Et
en parole plus, d'une ancienne ministre de l'Environnement.
Ça rapporte ensuite doublement.
Nous en reparlerons.
On en reparlera.
Même un de ces jours. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.